17 juin 2000. Le vénérable Sayado va maintenant vous expliquer en quoi consiste Satipatthana. Les méditants ici présents pratiquent en ce moment Satipatthana. Tous les enseignements porteront dorénavant sur la méthode de Satipatthana. Le vénérable Sayado va commencer par expliquer le terme yogi. Comme de façon générale, on considère que celui ou celle qui fait un effort peut être appelé un yogi. Nous pouvons nous poser deux questions. Tout d'abord, qu'est-ce qui fait de nous un yogi? Et ensuite, quels en sont les bénéfices? Dans les écritures pâlies, le terme yogi est défini par l'expression Bhavanaya Yutapayuta Taya. Bhavanaya veut dire développement de l'esprit, culture de l'esprit. Yutapayuta veut dire faire un effort progressif, par étapes. Quelqu'un qui est capable de fournir un effort par degrés successifs, en l'occurrence 3 degrés, peut être appelé un yogi. Il y a en fait deux termes, yoga et yogi. Le terme yoga est traduit par effort. C'est un effort courageux. C'est avoir le courage de renoncer à son propre confort. C'est le courage d'affronter les difficultés et de surmonter ces difficultés. On reconnaît 3 types d'efforts. Tout d'abord, Arambha Dhatu, l'effort initial. Ensuite, Nikama Dhatu, l'effort libérateur, qui va permettre aux méditants de surmonter les difficultés, comme par exemple la paresse. Et troisièmement, Parikama Dhatu, l'effort culminant, l'effort soutenu qui va permettre aux méditants d'atteindre son but. Lorsque vous avez appris que cette retraite de méditation aurait lieu, il vous a fallu un certain courage pour décider de participer. Vous avez dû renoncer à votre confort et à vos habitudes. Vous avez dû accepter de vous séparer des êtres qui vous sont chers. Vous avez dû renoncer à votre nourriture favorite et à tout ce à quoi vous êtes attaché. Comme vous avez eu le courage de renoncer à tout cela, vous pouvez vous dire que vous êtes un yogi. D'autre part, vous connaissez les bénéfices de la pratique de Satipatthana. Vous croyez à ces bénéfices et vous avez donc le désir, chanda, de pratiquer cette méditation. Muni de cette foi, de cette confiance, du désir de pratiquer cette méditation, chanda, et de courage, vous êtes venu au centre. Vous avez ensuite dû étudier la méthode pour la pratique de la méditation en posture assise et pendant la marche. Vous avez commencé à pratiquer et vous avez dû faire l'effort d'être chaque fois attentif aux différents objets qui se présentait à la conscience. Celui qui est capable de fournir cet effort initial peut être appelé un yogi. Le courage dont nous aurons besoin est essentiellement le courage de renoncer aux plaisirs mondains, aux joies du monde, et d'autre part, le courage nécessaire pour acquérir le bonheur supramondain, le bonheur du Dhamma, le vrai bonheur. Le bonheur mondain est dangereux, il peut même être fatal. Le bonheur du Dhamma, le vrai bonheur, n'est ni dangereux ni fatal. Le bonheur mondain peut être expérimenté facilement, immédiatement, mais nous ne connaissons pas encore l'autre bonheur, le bonheur du Dhamma, le vrai bonheur. Étant donné que nous ne le connaissons pas encore, nous aurions tendance à abandonner, nous pourrions devenir paresseux. Cette paresse est appelée en pali « danti ». Un méditant ne devrait pas avoir « danti ». Le Bouddha a souvent parlé de « attandito ». Il a souvent parlé de « attandito » pour le plus grand bien des méditants. Ne pas faire l'effort, abandonner, c'est la paresse. Cette paresse est très dangereuse, c'est une force très destructrice. Cette paresse a également été qualifiée par le Bouddha d'ennemi interne le plus intime. La personne qui est victime de cette paresse n'aura pas le désir de pratiquer. Elle n'aura pas chanda. Elle n'aura pas le désir de transformer son esprit, de le cultiver. Et même si ce désir est présent, si elle a chanda, le désir de cultiver son esprit, l'effort qu'elle va fournir sera faible. Un méditant dominé par la paresse ne sera pas en mesure de développer un fort samadhi, une forte concentration. La sagesse ne pourra pas se manifester clairement. La paresse est donc un empêchement à la pratique. C'est la raison pour laquelle l'illuminé nous a toujours encouragés à fournir un effort et à surmonter les difficultés. Si la foi, la confiance est faible, si le désir de pratiquer est faible, l'effort sera faible. La personne aura peur d'expérimenter des sensations désagréables, des douleurs. Une telle personne craindra pour sa vie. Le méditant qui ne fournit pas beaucoup d'efforts reste attaché à son corps et à sa vie. La personne qui ne fournit pas assez d'efforts ne pourra donc pas réaliser le Dhamma extraordinaire. La personne qui ne fournit pas assez d'efforts aura tendance, pendant la méditation assise, à bouger, à changer de posture, à suivre les impulsions du corps. En conséquence, elle ne pourra pas développer un fort samadhi et les jnanas ne vont pas se manifester. Il est donc nécessaire d'intensifier l'effort pour surmonter les difficultés. Cet effort intensifié dans le but de surmonter les difficultés est appelé Nekama Dhatu. La personne qui fournit l'effort nécessaire pour surmonter les difficultés, qui n'abandonne pas, qui ne bat pas en retraite, va réussir à développer de plus en plus son samadhi, sa concentration. Les connaissances vipassana, les jnanas, vont alors pouvoir se manifester sur base de cet esprit concentré. La connaissance va se développer d'une façon très particulière. Nous devrions nous déterminer à fournir l'effort nécessaire pour atteindre au moins Sotapatti Magga, la connaissance du chemin de celui qui est entré dans le courant. C'était donc là les trois types d'efforts. La personne qui détient ces trois types d'efforts peut être appelé un yogi. Voyons maintenant ce qui arrive à celui qui ne détient pas ces trois efforts. Lorsqu'un yogi ne fournit pas cet effort en trois degrés, il est possible que son attitude devienne basse et négative, que son esprit se dégrade. S'il entre en contact avec un objet désirable, il voudra l'acquérir. Il voudra voir des choses agréables, entendre des sons harmonieux, sentir de bons parfums, goûter des mets délicieux, expérimenter des sensations physiques agréables. Et s'il réussit à obtenir ces choses, il se sentira insatisfait et voudra toujours plus. Lobha, l'avidité, le désir vont apparaître dans son esprit. Et si cette personne n'obtient pas ce qu'elle désire, c'est dosa, la colère, qui va se manifester. Et si cette personne constate que d'autres ont ce qu'elle n'a pas réussi à obtenir, c'est la jalousie qui va se présenter. Et si elle détient ce que d'autres n'ont pas réussi à obtenir, il est possible qu'elle devienne orgueilleuse et vaniteuse. Un esprit encombré par ce genre d'impureté est bas et vulgaire. Un tel esprit est sous-développé, sauvage, brut. Si on veut éviter d'en arriver là, il faudra développer son esprit. Pour y arriver, il faudra pratiquer la méditation. Pour développer l'esprit, il faut méditer. En pali, on dit bhavaniya. Voyons maintenant tout ceci d'un point de vue pratique. Imaginons que nous soyons occupés à méditer en posture assise et que nous observions les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Pour arriver à observer ces deux mouvements de façon ininterrompue, nous devrons fournir un effort. Et c'est à chaque seconde que nous devrons fournir cet effort sans interruption. Ce type d'effort peut être qualifié de normal. Si des sensations désagréables se manifestent, comme des tensions, de la raideur, nous devrons fournir un effort tout particulier pour ne pas changer de posture. Nous devrons intensifier notre effort de façon à ne pas capituler, à ne pas réagir à ces sensations désagréables. Lorsque ce type d'effort est fourni, il n'est pas possible que lobha, le désir, ou dosa, l'aversion, pénètre dans l'esprit. Il n'y a pas de place pour ces impuretés. En présence donc de viriya, de l'effort, les impuretés ne peuvent pas pénétrer dans l'esprit. Et en conséquence, l'esprit ne peut pas s'avilir, il ne devient ni bas ni vulgaire. Il est au contraire développé, cultivé, raffiné. Un tel esprit est appelé bhavaniya. Pour obtenir un tel esprit, il est nécessaire de fournir un effort. Tel est le bénéfice du yogi. Un méditant doit noter tout ce qui se présente en lui, à l'instant même où ces phénomènes se manifestent, à commencer par les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. S'il réussit à faire cela, c'est un vrai yogi. Mais si au moment où il pratique la méditation, il pense à ceci ou à cela, s'il imagine, fait des projets, vagabonde de ci, de là, il ne peut pas être appelé un vrai yogi. Ce n'est que s'il pratique avec effort et en contrôlant les contacts sensoriels qu'il peut être appelé un vrai yogi. Un tel yogi peut être sûr qu'il atteindra le Dhamma. Ceux qui réfléchissent, qui pensent, qui vagabondent pendant la méditation ne sont pas de véritables yogis. Pour eux, la réalisation du Dhamma n'est pas garantie. Mais si l'effort est présent de seconde en seconde, les impuretés ne pourront pas pénétrer, l'esprit va devenir pur et clair. Lorsque l'esprit est purifié, Citta Sukha, le bonheur mental, va se manifester. Kaya Sukha, le bonheur du corps, suivra le bonheur de l'esprit. Les méditants sont alors ravis d'avoir expérimenté le bonheur mental et le confort physique. Et c'est la seule chose qui compte pour eux à ce moment-là. Ce bonheur de l'esprit, Citta Sukha, ne doit pas être confondu avec Kama Sukha, le bonheur qui s'enracine dans les plaisirs sensoriels. Citta Sukha surpasse de loin tous ces plaisirs ordinaires qui proviennent des contacts sensoriels. Kama Sukha. Il faut donc que le méditant fournisse un effort pour obtenir Citta Sukha, le bonheur mental. Nous avons donc expliqué ce soir ce qu'est un yogi et quel en est le bénéfice. Puissiez-vous avoir le courage d'abandonner ce qui est négatif, puissiez-vous avoir le courage d'adopter ce qui est positif, puissiez-vous avoir le courage de développer votre esprit et de persévérer dans la pratique jusqu'au moment où vous atteindrez Citta Sukha, le bonheur mental. Mai 2000. Au cours de l'entretien d'hier, nous avons expliqué de façon relativement complète en quoi consiste le terme yogi et quel en est le bénéfice. Ces deux questions ont été expliquées d'un point de vue à la fois théorique et pratique, sans donner ni trop ni trop peu de détails. Comme vous êtes entré aujourd'hui de plein pied dans la pratique, il est nécessaire de donner des explications à propos de Satipatthana. Nous allons essayer de cerner l'essence de ce terme Satipatthana. Il faut que vous compreniez bien en quoi consiste Satipatthana. Plusieurs points seront abordés et ce soir, nous répondrons à une première question. Quelle est la signification de Satipatthana? Ce terme se compose de deux mots, Sati et Patthana. Sati veut dire l'attention, prise de conscience. Le mot Patthana signifie appliquer fermement établir fermement. Et sur quoi allons-nous appliquer, établir notre attention? Nous allons l'établir tout d'abord sur Kaya, le corps, sur Vedana, les sensations, sur Chitta, l'esprit, et sur les Dhammas, les objets mentaux. La combinaison de ces deux termes, Sati et Patana, veut donc dire établir fermement l'attention sur le corps, Kaya, sur les sensations, Vedana, sur l'esprit, Chitta, et sur les objets mentaux, les Dhammas. Voyons tout ceci d'un point de vue pratique. Focalisons notre attention sur l'abdomen. Nous verrons qu'il y a tout d'abord le soulèvement de l'abdomen et ensuite l'abaissement de l'abdomen. La nature du processus de soulèvement et la nature du processus d'abaissement, c'est la tension, le mouvement. En pali, on dit vayodhatu, vayofotaba. Ce vayofotaba tombe dans la catégorie de kaya, le corps. Kaya, le corps, c'est la première base, les sensations physiques. Lorsque le mouvement de soulèvement a lieu, ce mouvement de soulèvement étant Kaya, le corps, nous allons fixer fermement notre attention sur ce phénomène. Ceci, c'est précisément Satipatthana. Le mouvement d'abaissement appartient également au groupe de Kaya. Lorsqu'il se produit, nous allons établir fermement notre attention sur ce processus. C'est Satipatthana. Toutes sortes de sensations vont également se manifester dans le corps. Ce sont les Vedanas. Nous allons établir fermement notre attention sur ces différentes sensations. Cela, c'est Satipatthana. Des pensées, des imaginations, des réflexions vont peut-être se manifester dans l'esprit. Nous allons établir fermement notre attention sur ces pensées, sur ces réflexions, sur ces imaginations. C'est Satipatthana. Toutes sortes d'activités mentales pourront également se manifester, comme par exemple entendre, voir, sentir, goûter, toucher, savoir. Nous allons établir fermement notre attention sur ces activités mentales et les observer avec précision. C'est Satipatthana. Le mot Sati est donc une des composantes du terme Satipatthana. On pourrait croire que Sati, c'est une attention ordinaire, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Sati n'est pas une attention ordinaire, c'est une attention extraordinaire. C'est pour insister sur le caractère extraordinaire de Sati, de cette attention, que le Bouddha a ajouté la particule pa à patana. Dans les commentaires, dans l'Atthakatha, l'attention est qualifiée de patatiti ou patati. Il ne s'agit pas d'une attention qui serait établie de façon superficielle, d'une façon relâchée. Patatiti. Cette attention doit au contraire être upatati, ce qui veut dire pénétrante. L'attention doit être établie de façon pénétrante sur l'objet. La particule pa est qualifié dans les Écritures de busata visita. Lorsque le méditant établit son attention sur l'objet, il ne le fait pas de la façon habituelle. Il le fait de façon extrême. L'attention doit être établie sur l'objet de façon extrême et très ferme. L'accent est mis sur ce caractère extrême et pénétrant de l'attention qui est posée sur l'objet. L'attention ne pourra pénétrer l'objet que si elle est posée de façon très ferme sur cet objet. Cette attention doit posséder les qualités suivantes: Okanti Toa, Pakandana et Pawatati. Okanti Toa veut dire que l'attention doit atteindre l'objet. Elle doit pénétrer l'objet. Et Pawatati veut dire que cette attention doit être ininterrompue. Elle doit être maintenue de façon ininterrompue. Voyons ce que ceci veut dire dans la pratique. Lorsque nous observons les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, nous devons le faire de façon très précise. L'attention doit être établie de façon très précise sur l'objet. Elle doit pénétrer cet objet d'attention. Et enfin, elle doit être maintenue de façon continue. C'est Pawatati. On ne peut parler de Satipatthana que si l'attention possède toutes ses qualités. Pour mieux comprendre cette caractéristique de l'attention qui consiste à pénétrer l'objet, il faut savoir ce que veulent dire les termes lakana, la caractéristique, rasa, la fonction, pachupatana, la manifestation, et padatana, la cause immédiate. La caractéristique de l'attention est définie dans les Écritures par le terme apilapana lakana sati, ce qui veut dire que l'attention ne doit pas être flottante, elle ne doit pas être superficielle. Pour l'exprimer en termes positifs, on peut dire que cette attention doit sombrer dans l'objet, elle doit couler dans l'objet. L'exemple est celui du bouchon que l'on jetterait sur un plan d'eau. Ce bouchon ne coule pas dans l'eau. Mais si on jette une pierre sur ce même plan d'eau, cette pierre va couler. Elle va atteindre le fond. De la même façon, lorsque l'attention est dirigée vers le mouvement de soulèvement de l'abdomen, elle doit couler dans ce mouvement. De même, lorsque l'attention est posée sur le mouvement d'abaissement de l'abdomen, elle doit pénétrer, couler dans ce mouvement d'abaissement. Et c'est de la même façon qu'il faudra procéder avec les autres objets d'attention, qu'ils soient physiques ou mentaux. Pendant la pratique de la méditation en marche, lorsque le mouvement d'élévation du pied a lieu, l'esprit doit couler dans ce processus. Lorsque le mouvement d'avancement du pied a lieu, l'attention doit couler dans ce mouvement d'avancement. Et lorsque le mouvement d'abaissement a lieu, l'attention doit couler dans ce mouvement d'abaissement. La fonction de l'attention est définie dans les Écritures par le terme asamosa rasa. Samosa veut dire oublier, perdre de vue. Asamosa est donc le contraire. Ce terme veut dire ne pas oublier, ne pas perdre de vue. Nous devrons donc garder en vue l'objet d'attention. Okantitoa Pawatati veut dire pénétrer l'objet et maintenir cette observation pénétrante de façon continue. Garder l'objet en vue, maintenir l'attention. Ceci peut être comparé à un courant, un flux, qui coule de façon ininterrompue. Pendant la méditation, les objets vont se présenter à chaque instant. Il y a un courant d'objets, un flux ininterrompu d'objets. Garder l'objet en vue, c'est précisément maintenir l'attention sur ce flux de façon ininterrompue. C'est la fonction de l'attention de ne pas perdre de vue ces objets, de ne pas les oublier, de ne pas les manquer. C'est cela, asamosa rasa, la fonction de l'attention. Lorsqu'on note et qu'on observe distinctement les différents objets qui se présentent, qu'on ne les perd pas de vue, la manifestation de l'attention va devenir très claire. La manifestation de l'attention est définie en pali par le terme Visaya Bimukha Bhava Pachupatana. Le mot Visaya veut dire objet d'observation, champ d'observation. Abhimukha veut dire confrontation. L'attention devra donc être face à face avec l'objet qui se présente à l'instant précis où il se présente. Si tel est le cas, la manifestation de l'attention va devenir très claire. Si l'esprit qui note est réellement face à face avec l'objet d'attention, l'esprit sera protégé contre l'attaque des kilesas. La manifestation de l'attention, le fait que l'esprit se trouve face à face avec l'objet à l'instant précis où il se manifeste, est la cause et la protection contre l'intrusion des kilesas, des impuretés, est l'effet. Cette protection contre l'intrusion des impuretés est appelée Araka Pachupatana, la manifestation de la protection. C'est là le second aspect de la manifestation de l'attention. Sati, l'attention, protège l'esprit contre l'intrusion des kilesas, des impuretés. Lorsque l'esprit est protégé, il est guti, en sécurité. Si l'esprit n'est pas en sécurité, il sera perturbé. S'il est en sécurité, il est libre des empêchements, des perturbations. Il est donc libre, il possède vimutti. Un esprit libre des empêchements connaîtra shanti, la paix. Plus l'esprit est protégé contre l'intrusion des impuretés mentales, plus shanti, la paix, va se manifester. Une seconde de protection contre les kilesas amène une seconde de paix. 60 moments de protection contre l'intrusion des kilesas amènent 60 moments de paix. Si l'esprit est ainsi protégé contre l'intrusion des kilesas pendant une heure, il connaîtra 3600 moments de paix. Cette paix, c'est le fondement, la cause pour l'apparition du véritable bonheur. Lorsque Sati, l'attention pénétrante telle qu'elle vient d'être décrite, est développée, on parle de Bhavana. le développement, le renforcement de cette attention est également appelé bhavana. C'est pourquoi on parle de satipatthana bhavana. Le développement de satipatthana. L'attention qui va protéger contre l'intrusion des kilesas ne peut pas faire son travail d'elle-même. Elle devra être aidée par des facteurs précis. L'un de ces facteurs, c'est viriya. Viriya, c'est un type d'effort courageux et hardi. Cet effort correspond à l'effort initial, celui qui va permettre au méditant de maintenir son attention sur les différents objets qui se manifestent dans sa conscience. C'est l'effort qui va diriger l'attention vers l'objet. Plus l'effort s'intensifie, plus l'attention est maintenue sur l'objet. Mais un excès d'effort aura pour résultat que l'attention va manquer l'objet, elle va le dépasser. Elle ne tombera pas sur l'objet. Par contre, si l'effort est insuffisant, l'attention n'atteindra pas l'objet. Elle va le rater également. Pour que l'attention atteigne l'objet, un autre facteur mental sera nécessaire, facteur mental qui est appelé vitaka. Vitaka est nécessaire dans la pratique de la méditation. C'est le fait de diriger l'attention, de viser. Lorsqu'on observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, de même que les différents mouvements du pied lors de la marche, tel qu'il se présente à chaque instant, nous devons disposer de vitaka, nous devons viser juste. Ce n'est qu'à cette condition que l'attention pourra atteindre l'objet et être maintenue. Quel avantage y a-t-il à viser correctement? Le bénéfice, c'est que les trois types de pensées négatives ne pourront pas se manifester. Kama vitaka, vyapada vitaka et vihimsa vitaka. Kama vitaka, c'est le fait d'avoir des pensées sensuelles. Vyapada vitaka, c'est le fait d'avoir des pensées de malveillance et de méchanceté pour les autres. Et vihimsa vitaka, c'est le fait d'avoir des pensées de cruauté à l'égard des autres êtres. Si l'effort est présent et si l'esprit est correctement dirigé vers la cible, de telles pensées négatives n'ont aucune chance de se manifester. Mais l'attention ne peut surgir que si ces deux facteurs mentaux sont présents, à savoir l'effort et vitaka, le fait de diriger l'esprit vers la cible. Il y a encore beaucoup de choses à dire à ce sujet. Dans les jours qui suivent, le Vénérable Sayadaw va poursuivre ses enseignements à la fois d'un point de vue pratique et d'un point de vue théorique.